Bien, mesdames, messieurs, d'abord, merci au Centre de droit international pour l'invitation qui m'a été adressée. Je voudrais réagir en deux temps, quelques remarques générales à la suite de l'exposé de Nicolas, que je rejoins vraiment sur le fond. Je pense qu'on a une part de responsabilité professionnelle dans la manière dont on est appelé, le cas échéant, à participer à la rédaction de textes. Et c'est vrai que cette expérience est une leçon d'humilité pour les juristes à certains égards. Et puis je vais faire quelques remarques techniques pour revenir sur l'arbitrage d'investissement, qui n'est plus de l'arbitrage, qui concerne toujours les investissements, et qui m'a fait sortir un peu de mes gonds, parce qu'effectivement j'ai eu l'impression que la propagande était en route et qu'on continuait à comparer des pommes et des poires, on continuait à se référer à un ancien système qui est corrompu, hein. On a beau le pratiquer, on sait très bien quelles en sont les limites. Un système qui a été profondément modifié, non pas par la déclaration, non pas par la déclaration belge ou la déclaration interprétative, mais modifié dès l'automne 2015 dans le chapitre 8. Ce sont les propositions de la Commission qui ont d'ailleurs suscité dans le petit milieu des arbitragistes des réactions très partagées et très négatives en réalité. Et je vais y revenir. Mais de manière générale, je pense, comme Nicolas, que ce sont des textes qui méritent une autre attention que celle que lui portent les juristes. Alors, la difficulté, c'est que ce sont des traités, évidemment. Alors, quand on fait de la législation unilatérale, c'est facile de dire ce qu'on veut unilatéralement, de faire un exposé des motifs. Imaginer un exposé des motifs conjoint avec le Canada, pourquoi pas ? On sait aussi, dans une négociation internationale, et c'est toute la théorie, enfin, on le sait, les ambiguïtés constructives, un traité n'est pas dénué, puisqu'il est le résultat d'un accord des parties, n'est pas dénué, à certains égards, d'ambiguïté, mais c'est clair qu'un exposé des motifs, qui dirait « voilà d'où on part, voilà où on est arrivé, voilà pourquoi on a fait ceci et pas cela », serait tout à fait bienvenu, bien entendu. Plus c'est complexe, moins c'est explicite, plus les théories du complot peuvent être alimentées, et je pense que c'est ce qui s'est passé, et je pense que ça a servi, en réalité, la propagande à l'heure. Et je l'appelle de la propagande, parce que je suis désolé, mais on a, à certains égards, sciemment et volontairement menti aux gens. Quand on dit que le CETA va nous faire bouffer du poulet au chlore, etc., ce sont des fantasmes. On a réussi à convaincre l'opinion publique que c'était ça le résultat de la négociation, alors que ce n'est pas ça. Et s'agissant également de ce qu'on a dit au sujet du CETA à propos du chapitre 8 et du règlement investisseur-État, là aussi, on a fait croire aux gens que l'ancien système perdurait, alors qu'il est profondément modifié. Et je pense que soit on vit avant Luther, et on dit au peuple, vous ne devez pas lire, tout est clair, il ne faut pas comprendre, vous ne devez pas lire pour comprendre, soit au contraire, on accepte la révolution luthérienne et on fait humblement son travail aussi en lisant les textes tels qu'ils sont produits, avec leurs difficultés, avec leurs ambiguïtés, etc. Mais ce que je regrette profondément, c'est que les professionnels du droit ne se sont pas rendus compte que le caractère complexe des textes qu'ils produisent suscite, évidemment, c'est une perche tendue à tous ceux qui veulent la destruction du texte qu'ils produisent. La complexité crée un sentiment de dépossession, et ce sentiment de dépossession est d'autant plus facilement exploitable par ceux qui ne veulent pas du texte sur le fond, et il faut bien être réaliste, il y a un combat politique là derrière, ceux qui ne veulent pas du texte sur le fond en profitent et font circuler des fausses idées sur le contenu du traité. Alors, l'appropriation du texte par le peuple, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si le peuple s'est approprié les lois spéciales du 8 août 80, s'agissant de réformes institutionnelles, s'agissant de la Belgique. Je vous souhaite bonne chance aussi pour les lire. Je ne sais pas si lire la CEDH, c'est s'approprier la CEDH, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le pire conseil professionnel, n'est-ce pas, Nicolas, qu'on peut donner à un État qui souhaite adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est de lire le texte de la Convention. Parce que ça, c'est à coup sûr le tromper. Parce que ce que dit la Cour est parfois très éloigné, quand même, de ce que dit le texte du traité. Donc, il faut lire les textes, bien entendu, avec leur contexte général. Et c'est clair que le CETA faisant lui-même référence à l'OMC, c'est très difficile de comprendre le CETA sans comprendre un tout petit peu le droit multilatéral à cet égard. S'agissant de Ruling Clique, oui, c'est très très inquiétant. Il suffit de lire le Daily Mail aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas simplement les juges internationaux qui sont visés, mais de Ruling Clique, ce sont aussi maintenant les juges nationaux qui sont l'objet, tant à gauche qu'à droite, de critiques insupportables. Alors, si vous prenez les juges là, c'est pas simplement les arbitres qui sont de Ruling Clique. Si vous prenez les juges de la Supreme Court, vous allez voir Lord Sapien. Lord Sapien, educated at Eton, went to Oxford and wrote 5 books on the Hundred Years' War. Oui, bien sûr, Lord Sapien is the Ruling Clique. C'est un membre de la Supreme Court. C'est un homme qui passe ses week-ends, il se lève tôt, il a écrit 5 volumes sur la guerre de 100 ans. Oui, c'est sûr, c'est un juriste de haut vol. Mais quoi? The Ruling Clique. Voilà le texte du Daily Mail. Donc ça, c'est une race dont il faut couper la tête, évidemment. C'est l'époque qui le veut. Ce que je voudrais simplement ajouter de manière générale, c'est que je ne pense pas, je suis totalement en faveur d'une procédure plus transparente de conclusion des traités, et je salue, j'ai certaines réserves quand, sur des petits points de la déclaration de Namur d'aujourd'hui, mais l'esprit même de la déclaration de Namur d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a été lancé par Paul Magnette et qui a fait l'objet de signatures de différents collègues de par l'Europe, l'esprit même d'une procédure commerciale de négociation plus ouverte, on ne peut que le saluer, bien entendu. Parce qu'il faut arrêter de donner la possibilité à ceux qui veulent couler les textes de travailler sur ce sentiment de dépossession et de ce sentiment qu'on fait les choses dans le dos des gens. C'est fondamental, bien entendu. Cela étant, je ne pense pas, c'est un vrai problème pour l'Union européenne, mais je ne pense pas qu'on crée un espace politique avec un traité. Alors, disant ça, ça interroge évidemment les fondements de la construction européenne. Ce que je pense problématique dans la procédure CETA, c'est qu'on a finalement vu que les peuples ne faisaient pas confiance dans le Parlement européen, que c'est pas le Parlement européen qui, selon les peuples, est le lieu de légitimité démocratique, mais c'est les parlements nationaux, voire les parlements sous-régionaux. Il faut quand même rappeler que le Parlement européen est appelé à approuver le traité, et il ne peut pas être conclu aussi longtemps qu'il n'est pas approuvé par le Parlement européen, mais ça ne suffit pas. Et la question de la mixité, techniquement, encore une fois, les gens n'y comprennent. C'est normal, la mixité est vraiment complexe. On veut la mixité du traité parce qu'on veut le contrôle démocratique national. C'est pas parce que on voudrait assurément s'assurer que ses compétences à soi. Alors, ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est qu'on s'exprime par définition sur l'approbation du traité par un oui, par un non, sur le tout, et on s'intéresse à des choses qui relèvent des compétences exclusives de l'Union européenne, ou on s'intéresse à des choses qui relèvent des compétences du pouvoir fédéral. Hein? L'arbitrage, c'est la modification du code judiciaire, c'est pas de la compétence de la région wallonne, etc., etc. Donc, il y a vraiment une volonté de s'approprier, de retrouver un contrôle, je peux tout à fait le comprendre, mais il faut voir aussi ce que, en creux, ça creuse en termes de légitimité pour l'Union européenne. Et pour revenir à un espace politique créé par traité, mais qui a quand même des problèmes avec l'UEM, c'est précisément l'Union européenne. Et on a eu une procédure parfaitement transparente de négociation du traité constitutionnel, où les délégations nationales étaient constituées de représentants de la société civile, des syndicats, etc. Résultat des peuples. On fait ça. Résultat des courses. Deux peuples, parmi les plus vieilles démocraties européennes, rejettent le traité constitutionnel, alors même que les peuples ont été impliqués dans sa négociation. Donc, je veux dire, moi, je suis vraiment tout prêt et plus qu'en faveur d'une ouverture des négociations, d'une participation un peu genre COP21, etc., etc. Mais il faut aussi voir que c'est peut-être pas nécessairement la panacée, parce que, en tout cas, ça ne nous mettra pas à l'abri d'une certaine propagande qui joue sur le sentiment de dépossession. Alors j'en viens à des remarques techniques sur l'arbitrage d'investissement. Pourquoi l'arbitrage d'investissement? Pourquoi ce privilège pour les investisseurs? C'est la question de base, évidemment. Pourquoi est-ce qu'il faut leur donner un juge spécial? Alors, pour vous donner un exemple, j'ai utilisé l'exemple samedi dans un débat avec M. Magnette à l'Académie royale. L'AFN conclut un contrat avec le Canada pour fournir des nouveaux fusils au Canada. Disons qu'il y en a 150 000. La FN vend ses armes parce qu'elles sont de bonne qualité et aussi parce qu'elle accepte de construire une usine d'assemblage au Canada. Et puis après 2 ans, le Canada, voyant un canard boiteux dans son économie, se dit ben, « ça va, c'est bon avec la FN, on a déjà payé 100 000 fusils, les 50 000 suivants, on va les acheter au producteur national canadien ». Bon, alors, vous êtes la FN, vous allez devant le juge canadien, puisque vous n'avez pas de juge international à votre disposition. Est-ce que vous avez complètement confiance dans le juge canadien ? Est-ce que vraiment, c'est une réclamation toute bête, hein? Est-ce que vraiment vous avez entièrement confiance dans le juge canadien? Imaginons que le juge canadien vous donne tort, ben vous êtes la FN, vous allez toquer à la porte de la Belgique et vous allez dire à la Belgique, écoutez, dans nos relations avec le Canada, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, etc., etc. Bon, est-ce qu'il faut donner la possibilité à un acteur privé, c'est vrai qu'il est possédé à 100% par la région Wallonne, mais c'est quand même une société commerciale, est-ce qu'il faut donner la possibilité à un acteur privé de faire le lobby de ses autorités nationales pour qu'elles reprennent à leur compte une réclamation? Est-ce qu'il faut donner l'occasion à la FN de dire que les juges canadiens sont des mauvais juges? Voilà. Alors, on a d'autres expériences de part et d'autre, enfin, Nicolas et moi. Moi, je pense qu'on a été l'un et l'autre dans une procédure arbitrale. Franchement, l'affaire Fortis serait venue 2 milliards de réclamations d'un investisseur chinois mis devant les cours des tribunaux nationaux. Est-ce qu'on croit vraiment que le juge belge, qui est saisi à la fois de la réclamation des petits actionnaires belges et dans la même instance de la réclamation de l'actionnaire chinois 2 milliards d'euros, est-ce qu'on croit vraiment que le juge belge va rendre justice aux Belges de la même manière, alors que l'action dont il est saisi a été en quelque sorte polluée par la présence d'un investisseur? S'il donne raison dans le procès, il doit donner raison à tout le monde, et c'est 2 milliards en plus potentiellement à charge des pouvoirs publics. Donc il y a peut-être quand même des intérêts, des avantages pragmatiques à déconnecter ce type de différends, et je pense que un certain progrès a été fait par l'arbitrage d'investissement ancienne formule, justement en ne confiant pas tout à la protection diplomatique. Quand on voit les choses à l'OMC, où on voit que des producteurs de bananes américains font pression sur des petits États pour qu'ils apportent des affaires devant l'OMC, c'est pas très sain non plus de croire que tout doit passer, que le privé doit court-circuiter le public et utiliser le public à ses fins. Alors, sur le quoi, maintenant, non seulement pourquoi est-ce qu'on a de l'arbitrage d'investissement, je pense pour des raisons de dépolitisation et assez légitimes, me semble-t-il. Nicolas l'a dit, dans le CETA, on a resserré pas mal de définitions. Quel est ce privilège de juridiction? À quoi tient-il substantiellement? Essentiellement des règles de non-discrimination, hein. Et des règles de fair and equitable treatment qui sont resserrées. Nicolas y a insisté, je ne vais pas revenir là-dessus. Le droit de réglementer est réaffirmé, même si ça débouche sur des pertes pour l'investisseur étranger, etc., etc. Je crois qu'on a là une évolution. Elle n'est peut-être pas parfaite, parce que le monde n'est pas parfait. On peut espérer plus, mais on a là une évolution, elle est indéniable. J'en viens au comment est-ce qu'on met en œuvre ce privilège, mais là aussi, je pense qu'on a un système qui est rénové du tout au tout. On est face à un tribunal public, avec des juges qui sont nommés par les États, qui sont payés par les États, et qui sont soumis à des règles de déontologie qui sont mises sous surveillance du président de la Cour internationale de justice. C'est quand même assez novateur par rapport à la situation actuelle. Et on peut vouloir renforcer ceci. Le prétoire est ouvert dans le sens où les amicus curiae, etc., peuvent être faits. On peut vouloir aller plus loin, bien entendu. Est-ce qu'il faut souhaiter que ce tribunal arbitral et cette cour d'appel siègent à titre permanent? Là, je crains qu'on tombe dans l'accusation des élites à nouveau, parce qu'ils vont se tourner les pouces, les pauvres. Hein. On va nommer 15 juges à temps plein, plus 7 en appel. Et qu'est-ce qu'ils vont faire toute la journée? Il y a 100 traités bilatéraux d'investissement conclus depuis 1964 par l'État belge. Il y a eu un différend en 52 ans qui concerne la Belgique. Alors ça s'est accéléré les 15 dernières années, c'est vrai. Mais est-ce qu'on pense sérieusement qu'entre le Canada et la Belgique et l'Union européenne, il va y avoir constamment des sociétés qui, dans le traité, vont trouver des griefs à adresser aux autorités publiques? Je ne le pense pas, et je pense donc que le système de juges appelables, qui ne peuvent rien faire d'autre pendant le temps de leur mandat durant lequel ils sont appelables, est un système qui qui est adéquat par rapport au contentieux qui risque d'être soumis à cette juridiction. Si on veut des juges payés à temps plein, ben, on peut le vouloir, mais alors il faut prêt à payer soi-même. Hein, parce que franchement, c'est ce que disent les autres Européens, c'est gentil de vouloir, mais est-ce que vous allez ouvrir les cordons de la bourse pour payer des juges à temps plein? Il faut les sélectionner, bien entendu, de manière adéquate, ça va sans dire. Alors j'en viens à des questions un peu plus techniques. Pourquoi ne pas accepter l'épuisement des voies de recours internes, si j'ai encore le temps? D'abord pour des questions de rapidité, bien entendu. Ensuite, parce qu'on a un dualisme juridique au Canada et que le traité comme tel n'est pas invocable devant les juridictions canadiennes. L'article 30.6 du CETA instaure une espèce d'identité, de statut juridique du CETA comme les accords de l'OMC. Donc ce sont des traités qui ne sont pas invocables par les particuliers devant les juridictions nationales. Pourquoi ? Simplement pour préserver au législateur national sa liberté et son autonomie. Parce qu'on ne peut pas utiliser ces règles-là dans le contentieux objectif de l'égalité pour contester la validité d'actes. C'est fondamental, évidemment. Et c'est le statut de l'OMC devant la Cour de justice de l'Union. Sauf si vous entendez donner exécution par un acte d'exécution au traité international et que vous visez le traité international dans le visa de l'acte que vous adoptez, c'est le seul cas dans lequel vous pouvez utiliser le traité international comme norme de référence. Précisément parce qu'on veut sauvegarder l'autonomie législative interne, on veut sauvegarder la possibilité pour l'État, pour le pouvoir public, de légiférer, même en contradiction avec le traité. Le seul recours de l'investisseur, ce sera un recours indemnitaire devant une juridiction internationale, mais jamais un recours interne, cas échéant, qui lui permettrait d'obtenir l'annulation de la mesure. Ça me paraît très important en termes de sauvegarde de l'autonomie législative. Je pense aussi que le recours interne, l'épuisement des voies de recours interne, aurait suscité une difficulté au regard de la Cour de justice de l'Union européenne, parce que la Cour de justice aurait trouvé au-dessus d'elle un juge international pour lui dire qu'elle a mal jugé. Et ça, du point de vue de la Cour de justice, c'est évidemment inacceptable. Donc, si on soumet aux juges nationaux les questions d'application d'interprétation du CETA, avec un renvoi préjudiciel devant la Cour de Luxembourg, bien entendu, parce que du point de vue du droit de l'Union européenne, le CETA fait partie intégrante du droit de l'Union européenne. C'est un traité, un accord externe de l'Union. C'est la Cour de justice qui peut l'interpréter. Elle ne peut pas accepter, la Cour de justice, qu'un autre juge, qu'elle-même, puisse, pour les besoins de l'ordre juridique communautaire, interpréter au-dessus de sa tête un traité. Donc, il y a des raisons techniques, me semble-t-il, qui justifient que l'on ait inséré l'article 30.6 dans le traité, et c'est à des fins très spécifiques. Mais évidemment, en contrepartie, si cela sont les contraintes, il faut aussi comprendre qu'il faut construire une juridiction internationale. Alors, j'en termine, je pense qu'une des vertus de cette juridiction internationale, dans un traité qui est un traité de commerce et d'investissement, et qui n'est pas simplement un traité d'investissement, c'est pas du tout la logique des anciens BITs, on est dans le cadre d'un traité de commerce et d'investissement. Si les investisseurs peuvent mettre en concurrence les juges nationaux de part et d'autre de l'Atlantique, il ne faut pas être grand clair pour comprendre où les flux d'investissement vont se situer. Il ne va pas y avoir de race to the bottom, mais il va y avoir de race to the highest protection. Donc ça va être qui va attirer les investissements. L'État dont les juges nationaux sont les plus généreux vis-à-vis d'investisseurs. On tue ça en ayant un juge international avec une jurisprudence uniforme de part et d'autre de l'Atlantique. Et bien entendu, c'est important parce que dans un traité de commerce, dès l'instant où on peut bénéficier facilement des flux de commerce, hein, où que l'on localise son investissement, il est important d'éviter que constitue une variable dans la décision de la localisation de l'investissement, que constitue une variable le degré de protection dont l'investisseur peut bénéficier. Voilà. Et donc je pense qu'il y a des logiques à la fois juridiques et politiques qui justifient ça. Et voilà. J'en ai fini. Je crois que j'ai parlé suffisamment longtemps. Mais je suis évidemment prêt à répondre à toutes vos questions. Un petit mot sur la déclaration de Namur que je salue et que je trouve une démarche vraiment très intéressante. Il y a une chose qui me préoccupe dans la déclaration de Namur qui vient d'être adoptée aujourd'hui.
Qui dit quoi ?
La déclaration de Namur, c'est une déclaration sur plus de transparence dans les négociations commerciales internationales. En gros, ce qui me préoccupe dans cette déclaration, c'est que l'on dit que l'expropriation, la possibilité, bien entendu, pour les pouvoirs publics de reprendre la propriété et d'exproprier, c'est un droit fondamental des États, bien entendu, mais la déclaration de Namur ajoute une indemnisation dans les conditions du droit national. Et là, je trouve franchement qu'en ne visant pas, même pas le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, on fait machine arrière par rapport à 50 ans de protection du droit de propriété. Je ne vois pas très bien pourquoi on passe sous silence. Si c'est le droit national qui régit toutes les questions d'expropriation et que ce n'est que conformément au droit national qu'on peut exproprier, alors il ne faut pas s'étonner si le droit national change et qu'on retombe dans des débats que l'on espérait dépasser depuis un demi-siècle. Mais voilà, je suis assez étonné que même la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne soit pas visée dans un texte comme celui-là, car finalement, même si ce sont des vilains capitalistes, ils ont des droits fondamentaux aussi. Ça vous fait pas rire.
Je peux rebondir un instant ? Non ?
Voilà.
Ah oui, c'est pas bon. C'est